Chapitre 42. 1961.
Le père Aubry ne fait jamais de longs sermons. Il préfère s'exprimer une truelle à la main. Ce prêtre ouvrier partage ses activités entre entreprises de travaux publics et exercice sacerdotal. Maçon, fils d'architecte, il participe à la construction de logements sociaux, aidé par d'autres bénévoles. Il a longtemps travaillé à Flacé, un quartier de Mâcon. À présent, il officie à Guignon. Au cours de catéchisme, Pierre Aubry régale les enfants de ses anecdotes. Ses souvenirs de chantier, la guerre lorsqu'il a été fait prisonnier, puis appelé au service du travail obligatoire. Grâce à lui, plus d'une centaine de maisons ont vu le jour. Elles sont construites par les futurs habitants, qui cèdent d'une maison à l'autre. Pour les enfants, ce curé bâtisseur, si proche des familles modestes, est un adulte passionnant et respectable, quelqu'un qui ne ressemble à personne. Sa présence, c'est encore mieux que la cour de récré. Entre deux articles de foi, il demande aux élèves de participer, de ne jamais hésiter à intervenir ou à poser des questions sans faire le cirque, d'illustrer des passages de la Bible avec des crayons de couleur qu'il distribue et récupère pour les ranger dans des boîtes en carton. Et après le Notre Père et le Je vous salue Marie dans la cour qui jouxte le local paroissial, il organise des bals aux prisonniers. Pas de distinction entre filles et garçons. Tout le monde a égalité dans les deux équipes adverses. Chez le père Aubry, la parole est libre comme un oiseau dont on ouvrirait enfin la cage. Cet homme est un rayon de soleil pour tous. Si c'est ça la religion, alors c'est drôlement bien. Cette année, parmi les élèves, il y a Jean Septembre. Le père lui enseigne le catéchisme depuis qu'il vit chez Mokhtar et qu'il joue de l'orgue à l'église chaque jour après l'école, ainsi que le dimanche après l'homélie. Jean Septembre perturbe terriblement le père Aubry, qui a pourtant l'habitude de gérer des situations délicates, douloureuses. C'est lui qui écoute la parole des paroissiens au confessionnal, lui qui accueille la souffrance et le quotidien souvent difficile de ses ouailles. Il sait les entendre, et parfois y répondre. Mais jamais le cas d'un individu ne l'a autant perturbé. Parce qu'il y a du divin dans ce jeune garçon. Parce qu'il n'a rien à faire ici. Sa place est ailleurs. Chaque silence de Jean, il le ressent comme le triomphe du diable. Il pousse la porte de la cordonnerie de Mokhtar un mardi matin de 1961. Il y a deux endroits où le père Aubry se sent à l'aise. Sur les chantiers, à casser la croûte avec les Portugais, et au bistrot avec Mokhtar, sur la place des Forges, lorsqu'ils refont le monde devant leur troisième tasse de café. Assise derrière la machine à coudre, la jeune Colette manipule une ceinture sous l'aiguille. Mokhtar maintient une chaussure entre ses genoux dans laquelle il plante quelque chose à l'aide d'un marteau. La radio diffuse une musique douce. Ça sent le cuir et la colle. Le soleil de juin se reflète sur les étagères et le comptoir. Ils cessent tous deux de travailler à la vue du curé. C'est Colette qui parle la première.
« Vous ne voulez plus que Jean joue à l'église? Sa musique vous dérange ?»«
Comment elle me dérangerait ?» lui répond le père Aubry, presque froissé. « Il faudrait être idiot ou athée !»
Elle dérangeait Sénéchal.
Le marquis est inaccessible à la beauté. Pour preuve, il tue les cerfs. Non, la question c'est, qu'allons-nous faire pour Jean?
Colette se tourne vers Mokhtar, qui prend la parole.
Je ne suis pas le père de ce petit. Je ne peux rien faire d'autre que de l'accueillir sous mon toit pour qu'il joue chez toi, à l'église.
Le regard du prêtre passe de l'un à l'autre, puis il annonce solennellement, l'œil malicieux.
Ce matin, en priant notre Seigneur, j'ai eu une idée pour financer ses études.
Cassette numéro 12.
L'usine des forges de Guignon devenait moderne et la ville allait bientôt être la capitale mondiale de l'inox. Tu te rends compte, Agnès? notre toute petite ville du milieu de la France allait prendre de l'importance dans le monde entier. Ça a sauvé les finances de Mokhtar et moi par la même occasion. On a eu tellement à faire pour les chaussures de tous ces gens qui arrivaient pour travailler qu'on a mis les bouchées triples et je suis devenue employée, plus apprentie. Je versais à Mokhtar une pension pour Jean et moi. L'usine allait bientôt embaucher presque 4000 salariés et connaître son âge d'or. C'est comme ça qu'est née l'idée du père Aubry pour Jean. La ville avait besoin de nouveaux logements. Un nouveau quartier ouvrier, financé par l'usine, était en train d'être construit. Le quartier des Gagères. Des maisons posées les unes à côté des autres dans la partie basse de la ville. Les loyers en seraient modestes. Notre curé est allé voir le directeur de l'usine des Forges, dont je ne me rappelle plus le nom. Il lui a fait une proposition. Organiser une tombola dans la région pour que l'usine et l'église deviennent les mécènes d'un enfant prodige. Il paraît que l'homme est tombé de sa chaise. Un enfant prodige à Guignon ? Monsieur, lui aurait répondu le curé, si vous veniez à la messe, vous le sauriez. Chacun pourrait acheter un ticket et le gagnant remporterait une maison. Oui, le lot, c'était une maison. Il fallait recueillir beaucoup d'argent. Jean était encore jeune. Il aurait à faire de nombreuses années d'études. Elle existe toujours, cette maison. Va la revoir un jour, Agnès, et dis-lui merci. Elle est sur la route de Toulon-sur-Arroux vers le château des Presles. Tu t'en souviens? On y est allé avec Louis Berthéol.
Elle fait une pause, mais ne coupe pas l'enregistrement. Dans quelle pièce se trouve-t-elle? Quelle heure est-il? Comment est-elle habillée? Ces cassettes me demandent une reconstitution imaginaire.
Il fallait que l'usine donne un terrain et du matériel, et notre curé, aidé par ses copains artisans, ferait le reste. Le père Aubry s'est décarcassé. Maçon, terrassier, électricien, couvreur, plombier... Tout le monde l'a suivi, à commencer par l'usine. Le bâtiment est sorti de terre en quelques mois. C'est une maison toute simple, comme celle qu'on faisait dans les années 60. Mais quand même, trois chambres et un garage. Je l'ai vu qu'une seule fois à l'intérieur, le jour où le gagnant a récupéré les clés. Il s'appelait Monsieur et Madame Été. Leur fils Antoine, je le connais bien. Il habite toujours cette maison.
Elle interrompt l'enregistrement. J'entends le bruit singulier de la pause manuelle. Puis elle reprend.
Le père Aubry disait qu'il fallait faire vite, que les études de musique de Jean ne pouvaient plus attendre. Il était pire que moi. Il vivait plus que pour ça. Beaucoup plus tard, j'ai appris que la marquise s'était confiée à lui. Elle était surveillée de près par son mari, mais elle contribuerait au projet. On était tous obsédés par le talent de mon Jean. Sauf la mère. Deux semaines avant le lancement de cette tombola, la rumeur s'était répandue partout. Il y avait un petit génie parmi les habitants de Guignon, le gosse d'un paysan. Le père était mort. Fallait que la population se mobilise pour envoyer le ptio faire ses études à Lyon. Et surtout, il y avait une maison à gagner. Le dimanche précédant le grand lancement qui fut l'événement des années 60, l'église de Guignon débordait de partout. La place était noire de monde. Les habitants de la région étaient présents pour écouter le petit haut et sûrement en profiter pour dire une prière, histoire de gagner le gros lot. Un monde fou, même la mère était là, stoïque, blanche comme une aube de communiante. Je l'ai saluée, Daniel en a profité pour pleurer, et moi pour filer rejoindre Blaise. Le marquis faisait la gueule, mais il était présent. Il est passé devant Blaise et moi sans nous regarder. Raide comme la justice.
Je l'entends rire.
Madame de Sénéchal n'a pas osé laisser éclater sa joie. Là où elle avait échoué, quelqu'un allait peut-être réussir. Blaise m'a tenu la main pendant toute la messe. Quand les premières notes de Jean-Sébastien Bach ont fait vibrer les murs, j'ai su que c'était fini la douleur, l'injustice d'être mal née. On allait gagner. Ce pourquoi j'étais sur cette terre allait se réaliser. Ton père serait plus séparé de son piano. Mokhtar, comme d'habitude, est resté devant l'église sur son banc. Quelques jours après, le maire, Le directeur de l'usine et le curé ont lancé l'opération devant la population et la presse locale. De nombreuses familles ont joué plusieurs fois pour récolter le plus beau des lots, une maison neuve. Fallait entrer dans la mairie pour recevoir un ou plusieurs tickets. Il y avait un coffre-fort à l'accueil. Chaque soir, il était vidé et l'argent mis à la banque. À l'époque, c'était encore des anciens francs. Un ticket coûtait 10 000 francs, l'équivalent d'un euro à peine de nos jours. 6 757 tickets ont été vendus. Oui, ça, je me souviens du chiffre. J'en ai souvent rêvé la nuit. 6 757. C'est l'usine qui a imprimé les tickets. Au début, elle en a imprimé 1 000. Et puis, ça n'a pas arrêté. La tombola a rapporté 67 millions d'anciens francs. Une fortune pour l'époque. La direction de l'usine a fait placer l'argent sur un compte en banque auquel personne n'avait accès. C'est le directeur financier des forges qui a été chargé de verser l'argent de la pension pendant 7 ans jusqu'à la majorité de gens. Plus les frais pour ses vêtements et ses déplacements en train. Il restait encore de l'argent en 1968, quand Jean a fini ses études chez M. Lévitan. D'un commun accord entre l'usine, l'église et la mairie, il a été voté et décidé que le reste irait au Secours populaire.
Arrêt. Reprise de l'enregistrement.
Le tirage au sort a eu lieu le 14 juillet 1961 sur la place des Forges. Pour l'occasion, l'équipe de la mairie avait monté une estrade. Jean, debout entre le père Aubry et le maire, me cherchait du regard dans la foule. Et il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Jean a toujours été dans son monde de musique. Le matin, je lui avais fait la leçon. Surtout, tu dis bien merci quand on te tendra le micro. Merci à tous de m'aider. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, je vais réaliser mon rêve. Répète, Jean. Vas-y, répète jusqu'à ce que tu saches la phrase par cœur. Merci à tous de m'aider. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, je vais réaliser mon rêve. C'est Maître Duclos qui a tiré au sort et annoncé le nom des gagnants. Monsieur et Madame Été, comme je te l'ai dit.
Le téléphone fixe de la maison sonne. Je sursaute. C'est la première fois que cela arrive. Qui appelle-t-on ? Ma tante ou moi ? Est-ce que la personne au bout du fil sait que ma tante est décédée ? Je me lève, hésitante. C'est peut-être une erreur. Je regarde l'heure, 8h30. J'interromps l'enregistrement. Allô ? À 4 reprises, le téléphone fixe sonne. À 4 reprises, je décroche, mais personne ne répond. Je perçois un souffle à l'autre bout du fil. Est-ce Marie Roman qui cherche à me dire quelque chose ? Marie, c'est vous ? Il me semble entendre plusieurs « oui » chuchoter. C'est Héloïse qui vous a donné ce numéro ? Plus rien. S'ensuit un long silence et on raccroche. Nouvelle sonnerie. Je décroche, je perçois le même souffle. Allô ? Un son inaudible, flippant, comme quelqu'un qui peine à respirer. Marie ? Puis je me souviens qu'à l'établissement Tous les Soleils, on l'appelle Amélie. Pardon, Amélie ? C'est vous ? Et puis cela recommence, encore 3 sonneries. On raccroche. Une nouvelle heure passe dans le silence. Je n'ose pas sortir de la maison, mais je dois être à la gendarmerie à 11h. J'ai rendez-vous avec le commandant Rampin pour récupérer l'autorisation d'inhumer Colette. Liès va m'accompagner. L'amitié est étrange. Nous sommes l'un et l'autre, l'un avec l'autre, exactement comme nous étions liés enfants et adolescents, malgré une séparation de 20 ans. Un long couloir pendant lequel j'ai fait une enfant et des films, tandis que lui en a bavé des rondes frites. Et pas qu'un peu. L'agression qu'il a subie a abîmé l'homme qu'il est devenu. Enfant, Liès était joyeux. Adolescent aussi. Je le vois encore sur sa mobilette, son sourire immuable, des nuées de filles lui tournant autour. Il était la joie. Avec les années, il a chuté, sous l'effet de bombes à retardement. Je suis quasi certaine d'avoir laissé mon numéro de portable à Héloïse Gardine, mais pas celui du fixe. J'ai un doute. Je me demande si je ne l'ai pas griffonné par réflexe. Je le connais par cœur. Je ne parviens pas à me souvenir. Je finis par appeler le standard de la maison de retraite pour parler à Héloïse. Si Marie-Amélie me cherche, la jeune femme doit forcément le savoir. On me balade de service en service jusqu'à ce qu'on finisse par me répondre qu'elle est en congé aujourd'hui. Je peux parler à la résidente Amélie Andrieux, s'il vous plaît ?
Ne quittez pas.
Après plus d'une trentaine de sonneries dans le vide, je finis par raccrocher, découragée. En sortant, je découvre une nouvelle casserole de soupe sur le paillasson. Il faut vraiment que je rencontre la voisine d'en face.